pression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les...
Look, I found her.
Damn.
Red coat.
Look, I found her.
Look, I found her. Red coat.
Look, I found her.
Look, I found her.
Damn.
Red coat.
Look, I found her.
Look, I found her. Red coat.
Look, I found her.
Look, I found her.
Damn.
Red coat.
Look, I found her.
Damn.
Look, I
found her.
Damn.
Red coat.
Look, I found her.
Damn.
Look, I
found her.
Damn.
Red coat.
Look, I found her.
Damn.
Look, I
found her.
Damn.
Red coat.
Look, I found her.
Your memories in a mist. You're dreaming up your dad's embrace. child's a sensation. You wanna take action. You wanna say your affection. Except your dented heart doesn't know where to start. I feel it arising. Your daughter hates the teens. You can't cope with the scenes. You're digging deeper trenches.
Radio Campus, 88.3.
Il faut lui redonner une image positive pour que l'homme de la rue retrouve foi.
Tout va bien dans le meilleur des ondes.
L'esprit et le corps deviennent invincibles. On peut appeler cela une philosophie.
Aujourd'hui, c'est un truc mythique.
Enfin, j'ai pas fini.
Moi, ça me suffit pour aujourd'hui. J'ai des clients à voir, alors j'ai plus le temps de vous écouter.
Dangerous, sir! Dangerous, sir! Dangerous, sir! Dangerous, sir! Radio Campus 88.3.
Hey, tu t'es cru à New York,
C'est génial, c'est le meilleur projet qu'on ait fait jusqu'ici.
Radio Campus 88.3.
C'est une bonne chose pour la création.
Nous avons un standard plus élevé que n'importe qui puisque c'est à notre standard que se mesure le monde entier.
Hop hop hop, Intracity Music Party Festival Hop hop hop, les 13 et 14 septembre à Orléans.
Hop hop hop, c'est deux jours de festival dédiés à l'émergence musicale en plein cœur d'Orléans. Hop hop hop, Intracity Music Party.
Et bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Comment allez-vous? Comment vas-tu, Thomas?
Bonjour Lucas, ça va très bien. Bonjour aux auditeurs de Radio Campus Orléans sur ce magnifique plateau du 109.
Deuxième jour de festival Hop 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 dans Orléans. Après une très bonne première journée, très bonne première soirée même, qui était très très cool.
T'es resté plus tard que moi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Je suis resté jusqu'à presque une heure au final, j'ai pas pu tout voir, mais je pensais partir beaucoup plus tôt. Mais c'était très très cool, première soirée très assez folle, avec les artistes qu'on a reçus ici sur le plateau, notamment Caboché qui a fait vraiment des ravages. Enola qui était une bombe d'énergie absolument musicale et même comment dire corporelle. Elle a une énergie sur scène qui était absolument dingue. Enola Gay qui était assez cool et pareil qui a une énergie, une sorte de flegme qui est très très cool sur scène. Fat Dog aussi qui a une sorte d'autre énergie mais qui est très très cool également. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pu voir La. Du coup,
t'as été complet, toi.
Tout dernier, ouais. Et puis, moi, c'était surtout Yuto que j'attendais avec impatience. Du coup, à la salle Barreau. Et comment te dire, c'était absolument, c'était fou. Moi, l'année dernière, j'avais pas pu voir du coup la salle Barreau qui était pas ouverte. Mmh. Et du coup, là, c'était une vraie folie. Du coup, c'est pour ceux qui ne verraient, celles et ceux qui ne verraient pas, c'est à l'arrière du théâtre. Donc, on rentre un peu par une sorte de garage backstage, et il y a une scène magnifique avec un décor magnifique, et puis le son est dingue, et le son de Yuto était amplifié par cette magie scénographique.
Ouais, et c'est un programme au moins aussi complet, voire encore plus enjaillant.
Encore plus complet, pour samedi.
Ouais, qui se prépare effectivement pour ce samedi avec de nouveaux concerts qui vont démarrer à partir de 16h sur la scène Macro Santo, la grande scène du Campo Santo. On va commencer avec Bol à 16h, Carquois à 18h, Do Nothing à 20h et Bibio Sound Machine 21h50 et Anne Clou à 23h50. Toujours au Campo Santo, mais cette fois-ci sur la petite scène Micro Campo. Adulte DVD à 17h, Isayasuke à 19h, Johnny Jane 20h50 et Kokoko à 22h50. Vous aurez également donc la scène Barreau, celle du Théâtre d'Orléans, avec Versailles à 16h30, Moonlight Benjamin à 18h20, Double Vitrage à 20h05, RVG 22h05 et Joe Unknown à minuit. Et enfin, la scène de l'Institut, également au Conservatoire. Très belle scène également à voir pour des spectacles.
Que j'ai pas pu aller voir.
Ouais, pour des spectacles particuliers, effectivement, Gezir à 17h15, Nour à 19h15, Anastasia Coupe à 21h. N'oubliez pas également la classe internationale, entre autres les DJ de la classe internationale que vous pouvez retrouver à l'hôtel du Panloup ce samedi, entre autres, avec d'autres DJ mix également qui sont prévus jusqu'à à peu près 20h15. On clôturera en fait avec Joub notamment pour cette partie du festival.
Sur son vélo.
Qui fait des sons assez incroyables sur un simple vélo, un vieux vélo. Enfin, je vous encourage vraiment à voir, c'est assez incroyable. Johan Cretten également a noté sur le parvis de la cathédrale avec un spectacle, une visite commentée pour être précise, jouer avec le feu. C'est à 15h30 jusqu'à 16h30. Voilà pour ce programme un peu. On n'a pas été totalement complet, mais voilà, vous avez quand même un panorama.
Oh, quand même, on a pu présenter. Et si je peux vraiment dire mon petit coup de cœur, c'est vraiment d'aller découvrir la salle Barreau. Surtout une programmation assez éclectique et très. enfin il y a plutôt une partie assez électronique dessus et qui rend le spectacle vraiment intéressant. La scène est vraiment collée au public, il y a pas, pour le coup il y a pas de crash, donc le crash c'est l'espace entre le public et la scène, et là on est vraiment collé aux artistes et il y a une comment dire, une énergie qui se mélange, enfin des énergies qui se mélangent et une sorte de connexion qui est vraiment particulière. Et même le son est très très bien géré et la salle un peu en demi-cercle qui est très très bonne.
Eh bien, allez-y, venez aussi nous retrouver au 108. Hein, nous sommes en direct jusqu'à 19h pour accueillir des artistes. Et tout de suite, nous allons écouter la première interview que nous avons faite un petit peu plus tôt à 14h. C'est Gezir, donc que nous allons retrouver tout à l'heure sur au Campo Santo. Je vous encourage vivement à aller les voir, c'est vachement bien. Et on a fait l'interview avec Tristan, un membre de la mission locale avec qui nous faisons cette émission. Bonne écoute à tous sur 88.3. Nous sommes avec donc le groupe Gezir, le duo Gezir pour commencer. Comment allez-vous tous les deux ?
Bonjour, bien. Ça va, bonjour. Merci.
Ça va très bien. Alors moi j'avais une première question à vous poser. Je voulais revenir un peu sur la description en fait que le festival fait de vous. Je le dis. Voix x2, mandoline, basse, échantillonneur, etc. Je vais pas aller jusqu'au bout, mais enfin votre description, en gros, j'ai eu un peu de mal à la comprendre, et donc du coup, j'aimerais un peu vulgariser tout cela. Voix x2, mandoline, basse, échantillonneur, MPC, VST, synthé léger, pop organique, trans hypnotique. Exploration sonore, nappes électro-ambiantes entêtantes et cosmiques, dream pop, cold wave, post-rock, electronica, électropop hybride et moderne.
Et le dernier ferme la porte.
Voilà, expliquez-moi un peu tout ça là, parce que là je m'y perds.
C'est Jérôme, je pense, qui a écrit, Jérôme Todon, qui a dû travailler à l'Astrolabe il y a longtemps et qui m'a demandé il y a quelques temps. Je sais qu'il faisait les textes pour Hop-Hop-Hop et il m'a demandé justement quel était un peu notre setup sur scène en fait. Et donc je lui ai raconté ce qu'on avait sur scène et je pense qu'il s'est aussi inspiré de ça pour écrire cette description. Et puis bien sûr d'avoir pu écouter la musique qu'on fait, ouais. Donc à savoir, oui, pas mal de synthétiseurs et de boîtes à rythme, plus des chants et puis donc une petite mandoline et une basse.
D'accord.
Donc voilà, et puis c'est vrai que c'est souvent des chansons électro, ouais, pop, comment tu dirais Marie sinon toi?
Ben, je crois que tu as bien décrit, c'est un peu ça.
Ouais. Mais c'est, ouais. En tout cas, ça donne envie de venir nous voir.
Oui, ça je vous le confirme.
C'est intriguant, en fait.
On a pas mal entendu. Hein.
Faut se faire son propre
avis. Ce qui va se passer.
Non, mais c'est clair. Tristan, à toi de jouer, à présent.
Avant cela, il y avait Nestor et Bianca. Vous avez changé de nom après la grossesse de Marie-Céline.
Enfin, c'est sur les recherches en tout cas qu'on avait faites, vous allez nous dire.
En fait, on n'a pas vraiment changé de nom parce que Nestor et Bianca, c'était notre groupe de pop à l'époque où on était 5. À un moment, on était jusqu'à 5.
Et jeune.
Et en fait, on n'a pas vraiment changé de nom. Là, Gezir, c'est vraiment un autre projet, quoi, en fait, hein, qui est complètement différent.
Et ça n'a rien à voir avec votre vie personnelle, en fin de compte.
Tout
est lié. Souvent avec la vie personnelle aussi, c'est évident.
Oui, il y a forcément un lien. Où on a voulu se retrouver à une époque où c'est vrai qu'on était un peu parti sur d'autres emplois, on avait d'autres choses, et puis on a décidé de avec Marie, comme on était souvent ensemble, de se remettre sur un projet tous les deux, se faire plaisir, comme ça on a... Voilà.
Okay. Tristan ? Moi, il y avait les différences. Moi, je me posais la question sur la différence aussi entre ces deux projets, en fin de compte. Qu'est-ce que Gezir apporte par rapport à ce que vous aviez pu faire auparavant dans cet ancien projet Nestor et Bianca ?
Eh bien, justement, plus d'exploration avec des sons électro qui avaient déjà une petite touche. Hein, mais c'était quand même plus...
Nestor et Bianca, ouais, c'était plus une formation basse batterie, synthé, plus de chants, couplets, refrains, enfin... De ce qu'on faisait à l'époque, on faisait notre groupe de pop, on était, comme tu dis, plus jeunes. Et là, l'idée, c'était un petit peu de partir plus dans des sentiers plus, comme tu dis, d'expérimentation sonore avec des synthétiseurs. Et puis.
Et ça, pour le coup, c'est peut-être plus lié à ce qu'on écoute aussi nous-mêmes comme musique aujourd'hui, en fait. Ça a plus évolué, si ce n'est que ça a évolué avec notre vie perso, c'est plus aussi par nos goûts musicaux qu'on a pu un peu évoluer aussi avec le temps, quoi.
D'accord. Justement, cette évolution des goûts musicaux, comment vous la qualifieriez ? On évolue comment ?
Je pense qu'on est tous pareils. Hein. pense que quand on a 18-20 ans, on écoute des trucs de jeunes, enfin de notre époque, quoi. Puis après, l'orientation se fait où on commence à trouver des niches et des choses qui nous intéressent. On se dit, tiens, c'est étrange, cette chose, comme quand on va voir une œuvre d'art au musée, où ça va dire, wow, ça va nous choquer, on va être là, waouh.
Et puis on découvre aussi de nouvelles choses. Enfin voilà, il y a des artistes qui nous permettent aussi d'avoir accès à des musiques complètement différentes, en fait, de ce qu'on a l'habitude quand on est jeune, dans le cercle dans lequel on peut évoluer. Donc voilà, c'est...
C'est vrai qu'une vie, c'est très, très peu pour pouvoir voir l'ensemble.
C'est beaucoup et très peu à la fois.
pour avoir un peu le... Ouais, tout ce qu'on peut se nourrir d'art, en manière générale, quoi. Donc c'est bien de se nourrir, essayer de trouver des concerts, des expos, la vie, quoi.
Quand on vous écoute, on ressent cette vibe électro. C'est quoi vos inspirations?
Parce que là, vous avez parlé de cette évolution, mais effectivement, vos inspirations vraiment
au départ, si je me rappelle bien, quand on a commencé vraiment ce projet, il y avait un film qui nous avait inspiré. C'était, je me rappelle plus, la légende de Gaspard Hauser. Il y avait Vincent Gallo dedans, mais j'ai mangé le nom du réalisateur. Et la BO était faite par Vitalik.
Ouais, c'est ça.
Et puis c'est ce climat, donc image plus musique comme ça, un peu slow disco, électronique. Tous les deux, on a flashé sur ce film et tout. Et puis je pense que ça nous a un peu influencé sur la création des premiers morceaux à l'époque de Gezir. Notre premier projet a été fait en fait autour d'un film, parce qu'on a fait un ciné-concert en fait. Notre projet, il a démarré, et genre très peu de temps après, on a une proposition de faire de la musique originale sur un film. Et en l'occurrence, ce film, c'était un film des années 60 de science-fiction très kitsch, et c'était le Voyage fantastique de Richard Fleischer avec Raquel Welch. Et donc ce rapport entre le son et l'image, vu ce qu'on avait
ressenti en voyant
le film, justement, bon voilà, c'est une brèche qui s'est ouverte, on s'est engouffré dedans. Et on a suivi le fil, on a tiré le fil, quoi.
On avait une autre question. C'était par rapport aussi à votre lien avec Yann Tiersen, il me semble. Hein, Tristan ?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ouais.
On l'avait noté, cette question, non ? Le grand compositeur et pianiste. Hein, les premières parties de concert, notamment. On avait préparé ça. Non, on se demandait en fait cette relation avec Yann Tiersen, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler?
Parce que moi j'ai tourné avec lui pendant 5-6 ans, entre 2009 et 2015 en gros, où je l'accompagnais sur scène en fait, sur ses tournées. Et après coup, bien sûr gardé contact, et on a fait une tournée sur le premier album avec eux. Où moi j'étais plus dans le groupe avec lui, mais avec Gezir, on a fait les premières parties sur une tournée européenne pendant 15 jours. C'était bien chouette.
Oui. Ça va, oui. Il y a pire quand même comme collaboration.
Ouais. C'est clair.
Ouais, tout à fait. Vous en pensez quoi aussi, Marie-Céline, parce que pareil de cette collaboration avec Yann Tiersen.
Par rapport à nous, quand on y était.
Ouais, oui.
Franchement, moi, c'était ma toute première tournée. À proprement parler, avec des dates qui se suivaient comme ça. Donc j'étais très angoissée à l'idée de faire ça. Et vraiment, j'ai été super accueillie par l'équipe de Yann, sa femme, Émilie, et puis toute l'équipe, même technique, qui nous a vraiment beaucoup aidés à chaque fois qu'on s'installait sur scène.
Dans les petits chaussons. Enfin, c'était forcément des salles, c'était du confort, quoi.
Ouais.
Donc oui, c'est plutôt appréciable.
Et humainement, on a vraiment été...
Et puis humainement, c'était une super expérience riche.
Très bien accueillie et très bien gérée.
Super avec Yann, c'est qu'il s'entoure souvent de gens un peu de partout, quoi, parce qu'il y a Olavour qui est des îles Féroé, dans l'équipe technique il y a un Irlandais, un Écossais, tout ça c'est un melting pot de culture européenne qui est super chouette, quoi.
L'album Malsamage, pourquoi ce titre et que signifie ce mot?
Alors Malsamage, ça veut dire différent ou différence, je
les
sais
deux,
plus,
je
les
pense.
Deux, ouais.
C'est en espéranto.
En espéranto.
D'accord.
C'était pareil dans l'idée de réunir un peu tout. Enfin, je sais pas si tu connais l'espéranto, mais c'est une langue, je pense, qui malheureusement.
Ouais, qui est un peu en voie de disparition, ouais, malheureusement.
Je me rappelle que mes parents étaient un petit peu intéressés avec cette langue-là. C'est une langue qui permettait de regrouper voilà, toutes les nations, toutes les langues, en fait.
D'avoir une langue commune pour les pays européens.
Ouais, c'est ça. Ouais. Plutôt latine, ouais, je pense. Hein. Enfin, je sais plus trop. Ouais. Et en fait, quand on a fait cet album, c'était histoire aussi pareil, d'essayer que ça parle un peu au maximum de gens. Donc, on a appelé cet album comme ça.
D'accord. Justement, est-ce que ça a un lien aussi avec les titres que l'on peut voir sur votre album, Coma, par exemple, ouais, Le Monde ça. Sans eux. Qu'est-ce que ça signifie?
Ah oui.
Ça me semblait un peu énigmatique.
Oui. Ouais, Le Monde, c'est peut-être différent encore.
Le Monde, c'est une collaboration. Enfin, oui, Rainer, un très bon ami qui nous a malheureusement quittés cette année. On a fait ce morceau ensemble. Et donc, il est en allemand. Et Monde, en allemand, c'est la lune, en fait. Et il y avait ce côté petit jeu de mots où ça peut on peut entendre le monde, der Mond. En allemand, en fait, la lune.
Qui est la lune. Donc, voilà,
donc
c'est
oui,
pareil,
c'est vrai. C'est vraiment...
Pardon,
excuse-moi.
Pardon, c'est moi.
Bon, voilà, l'idée a toujours été de... Ouais...
Oui, de
partager, de prendre des choses... de prendre des choses des autres, de partager avec ce qu'on est, ce qu'on a. Un petit peu... Alors, pour le coup, là, je vais dire quelque chose, mais c'est pas du tout l'idée de base, mais avec des petites discussions depuis que j'ai pu avoir avec des personnes ou des choses que j'ai pu lire, c'est clairement anticommunitariste, en fait, finalement. C'est pas du tout à la base l'idée, mais finalement, en fait, avec un peu de recul, parce que je suis un peu choquée, en fait, parfois, de discours... Et bon, voilà, je dis pas voilà, que qui je suis et ce que je pense, c'est la vérité, mais en tout cas, je ressens les choses comme ça et j'ai plutôt envie d'être dans le partage et de l'échange avec les autres, que chacun garde vraiment tous ses signes distinctifs. Pas bon, voilà.
Oui, c'est la philosophie globale de votre duo.
Bisounours, quoi.
Mais non, mais on en a peut-être besoin. On en a peut-être besoin un petit peu dans ces temps-là, un peu parfois.
En tout cas, ça apporte à la discussion, ça amène la discussion et la question peut être posée. Enfin, voilà, je veux dire, on n'impose rien.
Ouais,
vraiment.
Ouais,
c'est pas du tout.
Vous proposez.
Toujours.
On propose. Notre
vision. Essayer de se remettre un peu en cause, de ne pas être dans l'entre-soi aussi. On pourrait être un peu, nous, dans notre petit village. Avec nos copains tout blancs et
c'est évident.
Donc ouais, au maximum essayer de gravir un peu d'autres falaises quoi qui sont sur les côtés là.
Vous serez sur la scène de l'Institut donc à 16h
17h15.
Oui. 17h.
Oui, non, on avait marqué 18h. Oui, non, c'est 17h.
C'est 17h15 le début.
OK, 17h15, ouais.
Pardon.
Alors, précisons bien les horaires.
Ouais. C'est pas le genre de salle où on vous retrouve habituellement.
Ouf, il n'y a pas de règles.
C'est une salle d'un conservatoire.
Oui, c'est ça, ouais. Après,
on s'attend pas à avoir de la musique électronique dans ce genre de
salle. Ça qui est bien aussi.
Justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ça fait
de
partie de ce mélange possible, en fait. Et c'est, je crois, l'art est vraiment pour moi le meilleur. Est-ce que je peux dire le mot média ou vecteur pour justement casser tous les codes qui pourraient être justement contraignants pour tout le monde.
On a joué dans une piscine une fois.
Oui, c'est vrai.
Original. Voilà. L'acoustique
pas
devait
nous,
être particulière.
Mais les enceintes étaient dans les...
Oui, elle n'était pas remplie, j'imagine.
Si. En fait, on ne jouait pas, nous, dans l'eau. On était sur le bord de la piscine, mais les enceintes étaient prévues pour être sous l'eau. Et les gens pouvaient donc écouter le concert sous l'eau.
Ah oui.
Avec un procédé spécial. Donc tout est possible.
Ouais, c'est clair. On avait une dernière question avant de conclure, je crois, Tristan.
Quels sont vos prochains projets artistiques?
Avec Gezir, là, ça va être de faire des concerts. Hein, parce que là, en fait, il faut le dire, c'est notre premier concert tout à l'heure. Depuis
3-4 ans. On n'arrivait plus à savoir vraiment.
À ce point-là,
ouais, donc on a les chocottes, là.
Ouais,
c'est comme le vélo, ça revient rapidement.
Ouais, c'est ça, une fois qu'on est dedans, c'est parti. Mais on fait une release party, parce que l'album sort à la fin du mois, le 27 septembre. En fait, il n'est pas encore sorti, le disque. Et on fait une release party à Vendôme, de là où on vient, le 28 et 29 septembre. Et après, on joue à Blois le 5 octobre. Et après, on cherche des dates, quoi. On va essayer de faire diffuser notre musique au maximum sur cet album-là, sur 2025.
Des projets après de futurs EP ou albums
Pas encore, non. Pas là, encore. On va déjà se focaliser sur celui-ci pour le jouer puis le défendre.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Beaucoup, merci à vous.
Vraiment, Gézir. Donc, je rappelle qu'on retrouvera la salle de l'Institut à 17h15 et pas à 18h comme on allait le dire auparavant. Merci beaucoup à Marie-Céline Le Guy et Lionel Laquerrière. Oui, c'est bien aussi de dire vos prénoms et vos noms quand même. C'est le groupe Gézir, c'est aussi composé justement d'un duo fort, fort appréciable.
Merci beaucoup.
Merci à vous,
merci,
vraiment.
Merci à vous.
Un très bon concert.
Merci.
Hop hop hop, Intracity Music Party Festival Hop hop hop, les 13 et 14 septembre à Orléans.
Hop hop hop, c'est deux jours de festival dédiés à l'émergence musicale en plein cœur d'Orléans. Hop hop hop, Intracity Music Party.
Et de retour sur le plateau de Radio Campus Orléans, cette fois-ci en direct, vous venez d'écouter une interview enregistrée du duo Gézir à l'instant. Et nous allons continuer cette émission sur le plateau du 109, le café-bar situé au sein du 108 rue de Bourgogne. Venez nous rejoindre si vous voulez assister à ces émissions. Vous serez les bienvenus et vous serez accueillis de bien belle manière. Et en parlant d'accueil, eh bien, nous recevons sur notre plateau désormais un nouveau duo. Cette fois-ci, il s'agit de Double Vitrage, composé de Rémi Talon et, je prononce bien, Rémi Talon et Raphaël Museau, c'est bien ça. Bonjour.
Coucou.
Bonjour. Deux artistes tourangeaux qui s'associent alors, pour créer un synthétiseur modulaire dont le clavier est une batterie. Alors, j'ai vu et écouté votre fameux clip, notamment Plein les Mirettes. Alors je me suis dit, what the fuck, c'est génial. C'est comme si je me sentais comme si j'étais une boule de flipper et que je me retrouvais envoyé d'un bumper à un autre, vraiment, avec cette batterie absolument incroyable. Vous pouvez nous raconter un peu ce clip déjà pour commencer et cette batterie, comment est-ce que ça se met en place dans ce duo pourtant électro ?
Eh ben, déjà peut-être l'histoire de la batterie avant le clip. Effectivement, comme tu as dit, on raconte que la batterie est le clavier du synthétiseur modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, c'est la batterie qui joue le synthétiseur modulaire. Comment, en fait, sur chaque élément de la batterie, donc sur chaque fût, chaque cymbale, etc., il y a des capteurs qui captent chaque frappe. Et toutes ces informations sont bricolées et traduites pour être reçues par le synthétiseur modulaire. Ce qui fait que chaque coup de batterie joue une note du synthétiseur modulaire et que avec la densité des patterns, on arrive à composer des musiques plus ou moins kiffantes selon les gens. Quoi.
Vous avez décidé de breveter ce système ou quoi ?
Bon, non, on est plutôt sur de l'open source. En plus, on utilise de l'Arduino, donc c'est plutôt à l'image de ça. Ouais.
Non, mais c'est extrêmement impressionnant. Tristan, tu avais une question aussi, je crois.
Oui, ce projet de double vitrage, ça a commencé quand et comment ?
Ça a commencé il y a bientôt 3 ans, les premières réflexions autour de comment penser ce système-là, parce qu'au début, on ne savait pas servir d'un synthé. Donc il a fallu apprendre tout ça, bidouiller, faire des expérimentations. Puis au bout de quelques mois, on a été rejoint par Sylvain à la lumière, parce que notre dispositif du coup permet de contrôler et le synthétiseur modulaire et des panneaux lumineux qu'on a fabriqués aussi, rendant le truc très interactif, quoi. Et on a fait le premier concert il y a un an et quelques mois, et depuis ça s'améliore, puis ça joue de plus en plus, quoi.
Vous avez été rejoint par Sylvain, vous dites, donc est-ce qu'on peut vous considérer comme un trio désormais ou comme un duo ?
On est deux sur scène.
Ça s'appelle pas triple vitrage, ça s'appelle double vitrage.
On est deux sur scène et il y en a aussi deux en régie. Donc il y a Sylvain à la lumière et aussi Sam au son, qui sont à ne pas mettre sur la touche parce qu'ils ont vraiment un rôle très important à la fois sur le son, à la fois sur la lumière, et ils nous accompagnent à chaque date. Malheureusement, ils sont pas là ici parce qu'ils sont en train de faire le sale boulot. Mais on est quatre, du coup. Ouais. Okay.
Le nom Double Vitrage. Pourquoi ?
Pourquoi Double Vitrage ? C'est un petit peu long, mais...
On a un petit peu le temps.
On a le temps. Bon.
Okay. Pas trop, mais un petit peu quand même. Vous pouvez développer.
En gros, c'est très simple. Moi, Raph et Sylvain, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et on était en, on faisait des colos de ski ensemble. Et Sylvain s'est flingué dans, enfin il a traversé le double vitrage, quoi. Il a traversé la vitre au chalet.
Ouais.
Et c'est resté. Et en fait après on a chacun fait nos vies et tout. Et quand on s'est retrouvé pour faire ce projet là et qu'on a cherché un nom, ça nous a semblé pour plutôt très marrant de rappeler cette anecdote.
Ça devait pas être marrant sur le coup, je pense.
Non, c'était tout sauf marrant au début.
D'accord. Je parlais de votre clip Plein les mirettes, dont le titre est assez explicite. Hein. On en prend plein les yeux et plein les oreilles. Mais vous faites aussi d'autres créations plus posées. J'ai écouté un petit peu, par exemple, des titres comme Aurore ou Night Ride, où je sens une petite touche plutôt 80s. Je me trompe peut-être
C'est impossible.
Dans l'analyse. Ouais. C'est impossible.
On a sorti
alors,
que voilà, plein
j'ai une très mauvaise oreille musicale.
Non,
dans
c'est
ce
que ça doit pas être nous.
C'est pas nous.
Non, mais alors, racontez-nous dans ce cas-là plutôt. Parce que là, je sens quand même une ambiance un peu plus posée sur ces titres.
Nous, on a juste sorti un seul titre, c'est Plein les mirettes.
Ouais.
Les autres trucs que tu évoques, c'est pas ça. Enfin,
ah,
c'est
oui
pas nous.
Alors, c'était pas ceux-là. Alors, c'était un autre duo qui s'appelait Double Vitrage, du coup.
Eh ben, figure-toi qu'il en existe un autre dans le sud-ouest.
Ok, d'accord.
Je sais pas s'ils se sont pris une vitre de chalet.
Ah oui, non, mais d'accord.
Mais
c'est intéressant.
Mais non, du coup, c'est pas nous. Et en plus, il s'avère que. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop d'intention posée tranquille. C'est plutôt rouleau compresseur constant.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je cherchais un peu des informations sur vous et j'en trouvais assez peu, notamment au niveau musical. J'avais trouvé ce SoundCloud sur lequel j'avais pensé que c'était le vôtre. Bon, ben, c'est pas le vôtre, c'est finalement un duo, pas un duo, mais en tout cas un groupe qui a le même nom. C'est une volonté justement de ne pas diffuser beaucoup votre musique
Oui et non, en fait, on s'est surtout concentré sur l'élaboration d'un live parce que l'intention première du projet était quand même de proposer une expérience de spectacle vivant.
Ok.
Et on a déjà été beaucoup occupé quant à la création du dispositif et au travail de ce spectacle. Et effectivement, on s'est posé la question de est-ce qu'on sort quelque chose maintenant ? Et en fait, on en a jugé que c'était pas le moment, car encore pas assez mûr pour nous. Car faire de la phono, c'est un petit peu aussi figer les choses. Mmh. Et c'était encore un peu jeune. Aujourd'hui, on y pense et on a le souhait de sortir quelque chose début 2025.
D'accord. Un EP plutôt
C'est ça.
Ouais, ok. Qui comportera combien de titres, vous en avez
une
idée pour l'instant?
Entre 1 et 1000.
À la jeunesse du projet pour l'instant. Ouais, ok. On a quand même l'impression, justement, si je me base sur ce clip, c'est, comme je vous dis, c'est la seule trace un petit peu vraiment de live ou autre que j'ai pu trouver sur Internet. On a l'impression, et vous êtes vraiment fait pour la scène. Qu'est-ce que cette scène vous apporte et qu'est-ce qu'elle vous permet peut-être de faire artistiquement, ce que vous ne pouvez peut-être pas faire dans un projet plutôt studio ou autre?
La scène, tu veux dire quand on est en concert?
Ouais.
Bah, qu'est-ce que ça nous apporte Ça nous apporte la fête, en fait. C'est ça la grande différence par rapport à un travail de studio, c'est que ça prend son sens à ce moment-là, à partir du moment où on est nous là sur scène, mais surtout en fait avec les gens autour qui tapent du pied et qui interagissent avec nous. C'est évidemment ça la grande différence. Et c'est ça qui a motivé l'intention du projet, quoi. C'est effectivement de grosso merdo de faire la bamboche.
Ouais.
Voilà.
Et chaque spectacle est, j'imagine, différent les uns des autres. Vous improvisez votre rythme musical. Vous êtes, enfin, voilà, comment est-ce que ça évolue ou ça change d'une scène à l'autre pour vous?
En fait, on a une trame qui est préconçue avec nos envois de notes MIDI par rapport au capteur pour qu'on ait quand même une structure de morceaux qui reste fidèle d'un live à l'autre. Après, dans les intentions et dans les durées de chaque tourne, de chaque pattern, on est assez libre et c'est comme on le sent, quoi. Donc tous les lives peuvent être un peu différents dans ce sens-là. Après, ce que font les lumières, c'est tout le temps les mêmes réactions qu'on a préconçues à l'avance sur des temps de résidence. Et voilà.
Parlons de ce travail justement sur la lumière, on ne l'a pas vraiment trop développé, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport justement à l'apport que ça amène à votre musique?
C'est quelque chose de plus immersif, je dirais. Quand on est en concert, c'est il y a une impression de synchronicité qui est assez cool. Où, en fait, quand il tape sur la caisse claire, ça fait une note et en plus ça pétille dans les lumières. Donc il y a quelque chose d'assez cool dans ce process. Ça a été la composition des morceaux aussi qui a été un peu différente au niveau de la musique, puisqu'on est obligé de dealer avec ça. Donc ça veut dire que si on veut qu'il y ait une note dans une mélodie, il faut qu'il y ait un élément de batterie qui joue en même temps. Et après, comment on fait réagir aussi toute la lumière et tout. Ça a été pas mal de journées d'essayage, de lumière.
Ouais. Ok. Je me demandais aussi, donc vous parliez là de ce prochain projet d'EP. Quelle va être un petit peu la couleur ou le message que vous allez un peu faire transparaître dans ce prochain EP qui sortira l'année prochaine?
Ben,
on sait que ça explose avec vous, mais voilà, qu'est-ce que ça raconte?
Je pense que voilà, je vais clairement parler en réfléchissant parce que c'est en cours de maturation, rien que de notre côté. Mais évidemment que cet EP, il sera à l'image du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il ne sera pas bouleversant par rapport à ce qu'on a pu composer jusqu'à maintenant. Après, évidemment, le fait de faire du travail en studio, on va pouvoir aller quand même explorer de nouvelles choses. Et puisqu'on n'a pas à l'inverse d'un spectacle où il y a du public et tout, il y a cette espèce d'énergie qui est là, qui soutient des idées de composition. Mmh. Chose qu'on n'a pas quand on écoute un titre dans son canapé. Donc il y aura quand même une volonté d'adapter ça aussi pour une écoute plus tranquille, ouais. Même si, grosso merde, ça restera énervé, je pense.
On pourrait aller plus dans le détail aussi, ouais. Peut-être prendre le temps d'affiner des choses. Ouais. Puis rajouter des pistes aussi, des trucs qu'on peut pas faire en live. Quoi. Ouais.
D'accord. On va bientôt conclure cet entretien. Je voulais vous demander quelles sont vos prochaines dates également, où est-ce qu'on pourra vous retrouver au cours des prochains mois, que ce soit peut-être dans la région ou ailleurs en France.
Toutes ces infos sont déjà dispo sur nos réseaux, Double Vitrage, ouais. Sur Facebook et Double Vitrage fait du bruit sur Instagram. Sinon, et après on joue à Bourges début octobre,
le
Berry Social Club. On joue à Parthenay fin octobre, on va jouer à Paris au FGO Barbara, au 6 par 4 à Laval,
à Nantes,
Moncton à Nantes vers le Macadam. Okay. 7-8 dates d'ici la fin de l'année. Voilà.
À Laval aussi.
Ouais. Alors, vous êtes peut-être un petit peu trop jeune, mais je voulais quand même rebondir aussi sur une question qu'on aime bien poser de temps en temps à des artistes ou d'autres personnes. On fête nos 30 ans, nous, à Radio Campus Orléans, donc on existe depuis 1994. Ces années-là, ça vous évoque quoi pour vous? Vous n'avez pas vécu dans ces moments-là, mais voilà, qu'est-ce que ça vous évoque?
Moi, j'avais moins 3 ans.
Je
ne
vais pas vous demander où vous étiez là, pour le coup.
J'avais moins 1 an. Ouais.
Peu de souvenirs hein, quand même.
Ouais. J'ai beau chercher.
Ouais.
Là,
même au niveau musical, d'influence ou autre, pas forcément.
En plus, dans ce projet-là, on a été écouter pas mal de choses assez modernes.
Oui. Ouais.
Au final, oui. peu de choses des années 90.
D'accord. Je vais vous appeler des modernistes dans ce cas-là.
Très bien.
De la musique. Merci beaucoup, Double Vitrage, d'être venu sur le plateau de Radio Campus Orléans. Donc, je rappelle, vous êtes sur la scène Barreau à 20h05, c'est ça. On pourra vous retrouver donc, pour un concert qui durera à peu près une cinquantaine de minutes. Merci à vous, on va suivre les prochaines interviews sur le plateau du 108 de Radio Campus Orléans et de tous les Radio Campus qui nous suivent et qui sont avec nous. Tout de suite, on va se faire une petite pause musicale avant de continuer la suite de nos programmes. Sur le plateau de Radio Campus Orléans au 108 rue de Bourgogne. Venez nous rejoindre, on est ensemble jusqu'à 19h pour rencontrer les différents artistes qui se produiront sur ce festival Hop 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 9e édition à Orléans. Je suis désormais en compagnie, alors déjà de Cléa pour commencer, oui. De la mission suivie par la mission locale. Bonjour Cléa.
Bonjour Thomas.
Ça va bien ?
Oui, ça va bien.
Ouais, on fait partie donc de l'équipe du Turfu pour cette émission du samedi, donc émission au cours de laquelle des jeunes de la mission locale vont interviewer des artistes de Hop 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 et nous recevons désormais un nouveau duo. On a plein de duos en fait, enfin là c'est pas un duo musical mais c'est deux membres du groupe, pour le coup Stéphane Bergeron avec le pull noir. Et Jean-Louis et pas Louis-Jean, pardon, et pas Jean-Louis Cormier.
Voilà.
Tu m'as perturbé pendant le voilà, parce que tu m'as dit que c'était ouais. Jean-Louis en Verlan, voilà. Donc Louis-Jean Cormier, voilà, deux membres du groupe Carquois, du groupe québécois qui vient de Montréal.
Voilà.
Et donc qui va se produire sur la scène Macro Santo, donc du Campo Santo, à 18h. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Radio Campus pour commencer.
Merci de l'invitation.
Et je vais laisser la parole à Cléa qui va se chargé de vous cuisiner un peu.
Ah merde.
Vous inquiétez pas, elle cuisine de manière douce.
Okay.
Votre groupe s'est arrêté pendant 13 ans pour un projet solo. Vous vous êtes à nouveau réunis l'année dernière. Qu'est-ce que vous fait de vous retrouver ?
Oh mon Dieu. Beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Mais on s'est pas tant perdu non plus. C'est-à-dire qu'on a continué de se voir en ami,
oui,
en collègue de musique.
Ouais.
Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous rappelle des bons souvenirs. Ben, ça, en fait, on l'a jamais perdu. La sensation d'être ensemble, on l'a jamais perdu. Mm-hmm. On s'est retrouvés. C'est semblable à il y a 13 ans, mais vraiment mieux, en fait. C'est vraiment mieux, avec aucune pression, juste du plaisir.
Pour mettre l'auditeur en contexte, là, Carquois fête son 25e anniversaire de naissance cette année. Mm-hmm. Donc, on fait énormément de chemin avant cette pause-là. Puis d'ailleurs, la raison de la pause, c'était justement parce qu'on était rendu qu'on tournait vraiment beaucoup à l'international. On avait des jeunes enfants à la maison, on commençait à presser le citron un peu trop. On était donc fatigués, ça a mis fin à la carrière de Carquois pendant un petit moment. On n'a jamais dit que c'était terminé, on voulait juste dire on prend une pause. Cette pause s'était tirée plus longtemps que prévu. Il n'y avait pas de prévision de toute manière. Mais donc, c'est ça. Je pense que le retour, comme on avait joué énormément avant, on a tissé des liens, une chimie, cette impression d'avoir la facilité à jouer ensemble. On a retrouvé ça après la pause. Puis on se disait justement, oh, à quel point ça... Tu sais, je vais le dire en québécois, mais le feeling des vieilles pantoufles. T'as l'impression de retrouver quelque chose de hyper confortable. Tu vois?
De confortable et de familier, effectivement.
Les vieilles godasses.
Je te laisse faire la suite. Alors, on avait noté Jean-Louis, hein, mais c'est bien Louis-Jean, hein, je rappelle. Hein.
Voilà, c'est Louis-Jean.
Dans la question. Non, parce que dans la question, justement, on avait noté Jean-Louis.
Bah
donc,
oui,
voilà.
Évidemment.
C'est
la faute de mes parents.
Ouais. OK. En 2003, c'était à la sortie de votre premier album, Le Pensionnat des Établis, que Louis-Jean Cormier avait qualifié d'étrange et de maladroit.
Ouais.
Qu'est-ce qui a changé dans votre style entre ce premier disque et ce que vous faites depuis que vous avez reconstitué votre groupe?
Ben justement, la précision d'un style. Parce que le premier album est un foutoir complet de millions d'influences mal gérées. Dans chaque chanson, il y avait à peu près 7 ou 8 idées différentes. Et je pense qu'après cours, on a eu... Ben, ça a été comme une espèce de libération. Faut croire, on a libéré ces chansons-là, puis on s'est dit, OK, plus jamais, on va faire un truc hyper concis. Ce qu'on n'a pas vraiment réussi à faire non plus.
Non, mais c'est, comme on dit, c'est l'intention qui compte.
C'est l'intention qui compte. Mais on a réussi à aiguiser un peu le tir, puis de nous trouver finalement, sans le savoir, de se trouver une espèce de niche ou un style en particulier, qui est devenu un style... qu'encore aujourd'hui, les journalistes vont utiliser comme comparaison souvent les jeunes artistes québécois qui se pointent. Faut savoir que Carquois au Québec, c'est très, je le dis avec toute l'humilité, mais c'est très connu. Donc maintenant, on sert d'exemple, tu sais, on va servir de comparaison chez les journalistes. Ah oui, ça fait très Carquois, tout ça. Donc, faut croire qu'on a réussi à se trouver un style finalement.
Bah, j'imagine, ouais.
Ok. Ce n'est pas votre première venue en France. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici?
Ah ben c'est en fait, faut savoir que, comme Louis-Jean disait tout à l'heure, par rapport à tourner beaucoup puis s'épuiser, c'est qu'on est venu énormément en France. Mmh. On a vraiment travaillé fort pour essayer de développer ce marché-là qui, pour les Québécois, semble naturel, mais c'est quand même très difficile d'accès. On a mis beaucoup d'efforts, on a investi énormément. Puis quand on a décidé de faire un retour, il faut savoir que le retour, premièrement, on voulait faire un album. Il n'était pas question de faire que des tournées. On a fait l'album, mais notre condition, c'était qu'on fait les dates qu'on veut bien faire. Parce qu'un groupe, c'est un titre très interdépendant. Tout le monde est codépendant de tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait plus vivre.
C'est une perte de liberté, un peu?
Ben oui, d'une certaine façon. Puis la France représente une grande partie de la carrière de Carquois. On voulait revenir, mais avec aucune pression, avec aucune... Je le dis en guillemets, là, on va pas se fâcher si tout d'un coup il y avait un succès, là, mais avec aucune pression, aucune nécessité de démarcher. C'est juste pour le plaisir.
Ouais. Juste pour le fun, comme on dirait.
Le vin.
Ah, OK.
Et
d'accord.
Le vin, oui. Et le pinard, un petit coup de pinard. Ouais. D'accord. Okay. C'est pas mal.
OK.
Vous êtes dans le bon pays, là.
Ouais, on est à la bonne place, je crois.
Quelle est la différence entre le public canadien et le public français?
Ouh, je dirais le public français me semble... Et là, ça va être très difficile de faire des comparaisons parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est très débalancé par rapport au succès du groupe, au rayonnement du groupe chez nous. Je pense que le public français, malgré tout, reste un peu plus analytique, un peu plus concentré, il écoute tout. Mais là, en même temps, comme je dis, on joue devant des gens qui, plus souvent qu'autrement, nous découvrent. Mm-hmm. Donc, ils sont très attentifs. Mais par contre, il y a un truc qui change, c'est que quand le public français devient fan, il devient fan... De ouf, vous dites ça?
Ouais, de ouf,
oui. Ouais. Oui, de ouf.
Ouais,
oui.
Tandis que le Québécois moyen, lui, il s'en fait pas trop. T'sais, si on y croisait, par exemple, je sais pas moi, Gilles Vigneault, comme chez nous, ça serait Charles Aznavour chez vous, il dit « Ah ouais, salut Charles! » Puis c'est vraiment un truc super... Il n'y a pas de temps de hyper fan. Puis d'ailleurs, quand on fait nos tournées françaises, on revoit plein de gens qui sont hyper fans des anciennes tournées. T'sais, la salle à Paris était remplie pratiquement de ça. Mais c'est une tuerie, votre truc, c'est vraiment... Enfin, ils sont vraiment...
Mais il y en a qui sont venus quoi, à 4 dates sur 5. Là. On fait 5 dates en 5 soirs. Il y en a qui viennent, ils font de la route, ils reviennent.
Ouais.
Fait, OK.
Ouais.
Ça, on n'est pas habitué à ça.
Ça on appelle ça des fans, oui, effectivement.
On appelle ça des vrais fans. Voilà.
On a parlé de votre reconstitution.
Ouais.
Et les débuts. Votre groupe a été formé en 1998 à la suite du concours qui est...
Ça s'appelle Cégeps, ouais.
Cégeps.
Je crois, Cégeps. C'est ça. Cégeps, ouais.
Qui est très prestigieux au Québec. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre groupe?
L'histoire du groupe? Très rapidement, on s'est connus au collège. Donc, les Cégeps, vous avez compris, c'était le début du... En fait, le collège, vous dites probablement le début de la fac ici, quelque chose comme ça.
Si tu dis collège, c'est université, et high school, c'est lycée.
Ouais, ben donc c'est après, c'est après le lycée, et ça existe qu'au Québec, c'est deux années après le lycée qui servent à t'aider à choisir ton plan de carrière et préformer. Mm-hmm. Et après, il y a la fac. Donc c'était vraiment ces deux années-là, tampon, où on s'est rencontrés, on étudiait le jazz au Cégep Saint-Laurent, Montréal, puis on a formé le groupe. Peut-être une semaine avant de la date de tomber l'inscription d'un concours qui s'appelait Cégep en spectacle. La veille du dépôt, il a fallu qu'on trouve le nom, même on n'avait même pas de nom. Mm-hmm. Alors on a fait le truc du dictionnaire avec les yeux fermés, puis on a pointé, puis on a dit « Ah, ben voilà, c'est Carquois, faut l'assumer. » Puis c'est devenu Carquois.